D'abord, permettez-moi de vous saluer, de saluer nos visiteurs. J'ai repéré par exemple Paul et Florence Appéré. J'ai repéré aussi Gauthier de Smith. Pardonnez-moi si j'oublie quelqu'un. Et puis je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet via Zoom. C'est une joie d'être tous ensemble. J'avais annoncé que je parlerai d'éternité et d'espérance chrétienne. C'est ce que je vais faire. Alors, il suffit que ce truc-là fonctionne bien. Et j'ai l'impression que je ne le maîtrise pas bien. Oui ? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. C'est bien le petit bouton sur la droite. Voilà, ça marche. Non, c'est sur la gauche. Merci. Il va falloir que je m'entraîne. J'ai fait une préparation pour la prédication, mais il va falloir que je fasse une préparation pour la maîtrise de l'appareil. Donc, quand la mort nous frappe et qu'elle emporte un être cher, l'absence est très dure, très douloureuse. Alors, pour conjurer le sort, ou parce qu'on y croit, on déclare qu'on se retrouvera. On se retrouvera dans la poésie. Là, c'est pas moi, là. Ça marche. Oui, j'appuie là. D'accord. Merci Nour. Donc vous voyez, c'est pas moi là. Poème de Victor Hugo qui s'adresse à sa fille Léopoldine, morte à 19 ans, noyée. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Mais aussi en chanson. Cette chanson de Gérald de Palma, où il raconte l'histoire d'un soldat de la guerre 14-18 qui va mourir sur le front. Et avant de mourir, il s'adresse à sa bien-aimée et il lui dit en chanson qu'il attendra au ciel qu'elle vienne le retrouver. Et puis au cinéma également. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. C'est ce que déclare le général romain Maximus à ses hommes dans le film Gladiator de Ridley Scott. Et puis il l'évoquera également à plusieurs reprises le moment où il retrouvera sa femme et son fils assassinés. On retrouve la notion d'éternité et d'espérance de retrouver les siens après la mort dans la pensée des hommes. Ce n'est pas étonnant, puisque, comme dit l'Ecclésiaste, nous avons en nous la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11. Il, c'est-à-dire Dieu, fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accompli du début à la fin. Et puis David s'adresse à Dieu également, il lui dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, on se retrouvera dans l'au-delà ? Est-ce une certitude ? Est-ce automatique ? Qu'en est-il ? Dans son ouvrage « L'espérance chrétienne », Henri Blocher aborde l'ensemble des sujets qui y sont liés. Ainsi, il traite de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ, des signes qui le précèdent, de l'enlèvement de l'Église, du dessein de Dieu pour Israël, de la résurrection à venir, du jugement, ou plutôt des jugements, du règne ou royaume de Dieu, du millénium, ces fameux 1000 ans dont on parle l'Apocalypse, du châtiment éternel et de l'enfer, de l'état intermédiaire, qui est cette période qui va du moment où on meurt jusqu'au moment où on sera ressuscité. Et enfin, de la béatitude finale, c'est-à-dire la félicité parfaite des élus au paradis, là où on se retrouvera. Ça serait passionnant de parcourir tous ces sujets, mais nous y serions encore demain matin. Par contre, ces sujets, s'ils vous intéressent, dites-le nous et on pourra les traiter. Non, ce matin, je vous propose de méditer le dernier point, à savoir la béatitude finale. Et puis donc, je vous invite à vous projeter, à vous élever, à quitter la terre un instant pour arriver dans cette béatitude finale, en fait, comme une bande-annonce. Pour ce faire, je me suis appuyé donc sur l'œuvre d'Henri Blocher, que je vous recommande fortement. Elle est petite, hein ? Enfin, du moins, pas l'œuvre, le livre est petit. Il est à la bibliothèque, vous irez voir Lucien. Et puis, donc, sur ce document beaucoup plus volumineux, c'est donc pour une fois réfléchi d'Alain Issus avec une équipe. Et enfin, sur le travail aussi de Thierry Huzer. Mais avant d'y entrer, nous évaluerons d'abord le rapport entre l'éternité et l'espérance chrétienne. Nous rappellerons quels sont les fondements de cette espérance. Nous évaluerons l'influence de cette espérance dans notre vie quotidienne. Nous lèverons les obstacles susceptibles de nous priver de la joie de la béatitude. Et enfin, nous monterons sur la montagne, comme Moïse, pour entrevoir le pays de la gloire éternelle. Donc d'abord, éternité et espérance chrétienne. Quel rapport avez-vous avec l'éternité ? Qu'est-ce que l'éternité évoque pour vous ? De l'attente ? De l'angoisse ? Une curiosité ? De l'indifférence peut-être ? Que sais-je ? Pensez à l'éternité. Influence-t-il votre vie présente ? L'éternité, vous pourriez dire, c'est pour plus tard, le plus tard possible, peut-être. Ou n'est-ce pas déjà maintenant ? Chacun pourrait apporter une réponse différente selon sa situation, ses préoccupations du moment, son âge, sa relation avec Dieu. Ce serait d'ailleurs intéressant de vous entendre là-dessus. Pour nous, chrétiens, l'éternité est étroitement liée à notre foi et à l'espérance qui y est attachée. S'il est une certitude, c'est que nous mourrons tous, sauf si Jésus revient avant. Et tous, face à la mort, le réflexe naturel est d'avoir peur. L'être humain n'a pas été fait pour la mort. Et l'Épître aux Hébreux certifie que le diable tient en esclavage, par la peur de la mort, tous les êtres humains. Hébreux 2, verset 15. Que se passe-t-il après la mort ? Dans toutes les civilisations, les humains se sont forgés des dieux et des croyances à leur idée sur l'au-delà. Vous voyez, le sujet est vaste et souvent complexe. Alors, quels sont les fondements de notre espérance ? Et pour ce faire, considérons la prière de l'apôtre Paul. Dans Éphésiens 1, 18, nous lisons : « Je prie qu'il illumine, notre Dieu, les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, les saints étant les chrétiens. Alors, il s'adresse donc aux chrétiens d'Éphèse. Et les chrétiens d'Éphèse étaient des fidèles. Ils étaient fidèles à Jésus-Christ. Je trouve que cette prière est un peu surprenante. Ne connaissait-il pas cette espérance ? Est-ce que nous savons quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu nous a envoyé, nous a adressé ? Est-ce que la prière de l'apôtre Paul a été est exaucée pour chacun de nous ? Certes, la perspective du ciel nous réjouit et nous encourage. Mais est-ce que nous l'avons reçu ? Avons-nous conscience de la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints ? Depuis Abraham jusqu'à l'accomplissement de toutes choses, toute la Bible nous oriente vers cette espérance, cet héritage que le Seigneur nous réserve, cette place que Jésus-Christ a réservée pour nous, cette cité qui nous est promise, cette patrie qui nous est promise et vers laquelle nous marchons. Et c'est aussi à cela que Jésus nous invite à demander dans notre prière lorsque nous disons à notre Dieu, à notre Père céleste, que ton règne vienne. Tout en réaffirmant que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Considérons donc d'abord la promesse initiale, c'est-à-dire cette promesse faite aux croyants, au Père des croyants, à Abraham. Nous lisons dans Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte. Considérons maintenant la foi en notre héritage, comme enfant de Dieu et cohéritier de Christ. Maintenant, d'où vient cette espérance ? Sur quoi est-elle fondée ? Évidemment, vous le savez, cette espérance, elle est fondée sur l'œuvre du Christ. C'est parce que Jésus est ressuscité et que par sa résurrection, il est les prémices, le premier-né de tous ceux qui sont morts, que nous pouvons nous réjouir de la résurrection des morts et envisager la vie éternelle à cette lumière-là. Et que Jésus a promis la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. C'est parce qu'il a dit à ses disciples qu'il allait leur préparer une place que nous pouvons nous réjouir par avance pour être toujours avec lui. Nous voulons nous attacher à cette perspective en attendant son retour, où il fera toute chose nouvelle. C'est bien sur l'œuvre de Jésus-Christ que nous pouvons nous fonder notre espérance et nous réjouir d'avance à la perspective de la vie éternelle avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens. Quant à nous, Éphésiens 3, versets 20 et 21, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Quelle perspective ! Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Maintenant que nous avons rappelé quels étaient les fondements de notre espérance, comment en vivre ? Vivre aujourd'hui de l'espérance. Question. L'espérance, c'est pour plus tard ou c'est pour maintenant ? Est-ce que nous nous contentons de notre bien-être terrestre ou le vivons-nous dans la perspective de notre patrie céleste ? Ce que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans la perspective des promesses divines. C'est dans les difficultés que les prophètes annonçaient les plus belles promesses divines. Et l'apôtre Paul ne disait-il pas que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui allait être réservée pour eux ? Romains 8, 18. C'est cette espérance qui nous aide dans nos difficultés. Levons nos têtes vers cet horizon et vivons-la aujourd'hui. La seconde question est celle de notre aspiration. L'Épître aux Hébreux décrit des hommes qui lui ont été agréables à Dieu parce qu'ils aspiraient à vivre dans une patrie meilleure, à savoir la patrie céleste. Hébreux 11, 13, 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ben ils auraient eu le temps de y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous pouvons dire que leur foi avait éveillé autre chose que les joies de la vie terrestre et que leur désir allait plutôt vers Dieu plutôt que vers les dons de Dieu. Cette espérance du ciel devrait nous porter et nous réjouir en toutes circonstances. Mais reconnaissons parfois que cette joie, elle est bien timide. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de saisir toute la dimension de cette espérance, en limitant ainsi la joie qui y est attachée ? Alors, quels sont les obstacles ? Ben, le premier, je dirais que c'est notre incrédulité. C'est trop beau pour être vrai. C'est de l'utopie. Ça me dépasse, je ne comprends pas. Et on n'y entre pas. Le deuxième obstacle, c'est de considérer l'espérance comme une échappatoire. C'est l'idée que l'espérance est un refuge que l'on se construit pour échapper aux difficultés de la vie. Alors, nous faisons face à bien des situations difficiles sans penser au repos final et nous nous privons de la joie que nous donne l'espérance du ciel et de l'éternité où tout sera différent, où tout sera nouveau. Quelles que soient nos situations, nos luttes, nos combats, nos déceptions, notre condition humaine, quoi, levons la tête vers le ciel pour nous ressourcer. Voyez Jésus lui-même, qui est l'exemple même de celui qui était sur le terrain de l'engagement. Il est là sur la montagne de la Transfiguration, où il monte pour prier et s'isoler. Là, il se nourrit de la lumière du ciel, sans pour autant se démobiliser par rapport à son engagement. Au contraire, avec Moïse et Élie, c'est là qu'il s'est préparé pour accomplir sa mission à Jérusalem, où il allait donner sa vie pour les hommes dans un engagement total. Il s'est nourri de la joie du ciel tout en vivant pleinement ses engagements terrestres. Le disciple, n'est pas plus grand que son maître. Suivons donc l'exemple de notre maître. Le troisième obstacle serait que nous sommes trop bien sur terre. Oui, on est pas mal quand même sur terre. Alors il faut mettre des nuances, c'est pas tout le monde est dans les mêmes situations et dans les mêmes pays. Mais nous, on se plaint pas trop quand même, on est bien. Nous sommes bien installés, peut-être trop suffisants, préoccupés par nos grands et nos petits bonheurs, nos rêves, nos projets, nos réalisations, nos réussites, nos sécurités. En résumé, tout va bien. La terre a tant de belles choses à nous offrir. Pourquoi penser au ciel ? Le ciel, on y pensera plus tard. L'idée d'être étranger et voyageur sur la terre ne signifie pas grand-chose pour nous. Pourtant, notre séjour sur la terre est décrit comme habitant sous une tente, alors que notre séjour céleste est décrit comme une cité avec des fondements solides qui a comme architecte Dieu lui-même, comme nous l'avons lu. Comme dit Thierry Huser, n'avons-nous pas l'impression d'avoir inversé les choses en vivant sur terre comme sur une résidence ou dans une résidence solide, et qu'un jour nous irons là-haut faire du camping. Et le quatrième obstacle, me semble-t-il, c'est le sort de nos bien-aimés qui ne croient pas. Comment demander à Dieu que ton règne vienne si nos bien-aimés risquent le châtiment éternel ? C'est alors que nous pouvons apprécier à ce moment-là le fait que Dieu ne tarde pas, mais qu'il use de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Mais nous croyons, nous, que la juste rétribution de notre Dieu d'amour, à ce moment-là, nous apparaîtra bonne. Après avoir rappelé ce qu'est l'espérance chrétienne et son influence dans nos vies, osons maintenant nous projeter dans la cité promise. Comme Moïse sur la montagne. Nous chantons parfois « Je veux monter sur la montagne », c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la paix nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Et maintenant, quelle idée vous faites-vous du ciel ? Que serons-nous ? Que ferons-nous ? N'avez-vous pas peur de vous y ennuyer ? Ou au contraire, pensez-vous que ce sera extraordinaire ? Avons-nous des éléments dans la parole de Dieu pour nous en faire une idée ? La Bible est sobre. Il n'y a pas de description fantastique, seulement l'affirmation de quelques grandes lignes sous forme d'images parfois. Alors cette sobriété nous invite à une retenue, avec le risque parfois quand même de considérer le ciel qu'en termes abstraits, avec aussi une réserve à ne pas vouloir imaginer les choses et une méfiance de ce qu'on pourrait imaginer. Mais sans consistance, le ciel ne fait pas rêver, n'est-ce pas ? Au moins, sur terre, on sait ce qu'on a. Alors ce matin, on va essayer de s'approcher du ciel en jetant un regard à partir des éléments dont nous disposons dans la parole de Dieu. Et pour ce faire, je vous invite à monter sur la montagne, comme le fit Moïse, pour voir le pays promis. Nous lisons dans Ésaïe 65, les versets 17 à 18. C'est le Seigneur qui parle, il dit « Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout rempli d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Et dans Apocalypse 21, verset 4, Dieu habitera avec les hommes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait aura disparu. La nouvelle création, c'est plus que la première qui est pourtant déjà tellement belle. Quand le Seigneur dit « Je fais toute chose nouvelle », ce n'est pas pour faire moins, mais au contraire, c'est pour faire plus. Marcher vers le ciel, ce n'est pas aller vers un dépouillement, mais un tellement plus. Peut-être pourrions-nous penser à une vie sans relief dans un monde immatériel limité aux activités spirituelles. Mais la Bible parle de la résurrection avec un nouveau corps, et non pas seulement l'immortalité de l'âme. On peut penser que ce nouveau corps, dans ce monde nouveau que Dieu aura créé, sera sans entrave. Pensez déjà aujourd'hui à toutes les possibilités que nous offre notre corps. Mais ce sera bien plus, pour agir mieux, ressentir plus fort, avoir des possibilités d'action. Enfin, un corps parfaitement adapté à la nouvelle création. Laissons résonner les mots de l'apôtre Paul, et de Paul tout à l'heure également, qui nous dit que le Seigneur transfigura notre corps humilié en corps de misère pour le rendre semblable à son corps de gloire. Et là, moi, j'ai une pensée pour toutes les souffrances que subissent les uns et les autres à cause de l'âge, de la maladie, etc. Le Seigneur transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire. Waouh ! Et puis, imaginez vivre dans un monde où le mal n'existe plus. Et en pensant au mal, sous toutes les formes que ce soit, combien il nous pèse. Il peut venir de l'extérieur, bien sûr, mais il peut aussi nous ronger de l'intérieur. Il peut être conscient ou inconscient, mais il est là. Plus de guerre, plus de meurtre, ni violence, ni vol, ni escroquerie, ni incivilité, ni. Ne ressentez-vous pas comme un immense soulagement ? Le mal n'existe plus. Vous entendez ? Et une autre vision d'harmonie, c'est celle de Ésaïe 11, 6, 9. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Imaginez ce monde-là. Quel soulagement, quelle libération, quelle liberté. Et puis se dire que cette libération est pour nous, mais aussi pour celles et ceux que nous aimons, et les autres aussi. Imaginons leur visage rayonnant. N'est-ce pas à cela aussi que la liberté des enfants de Dieu dont parle l'apôtre Paul ? N'est-ce pas aussi l'image de la fête dans le ciel de cette libération, fête partagée par tous ? Le mal n'est plus. Vous réalisez. Et maintenant, considérons celles et ceux qui nous ont précédés, celles et ceux qui ont marché vers le pays promis, qui l'ont espéré, qui l'ont salué de loin et qui maintenant sont arrivés. Ils sont passés de la foi, avec ses doutes parfois, ses questionnements, à un aboutissement. Ils ont achevé la course, ils ont remporté le prix. Il y a tout ce temps où nous croyons, où nous espérons, où cette attente est forte en nos cœurs, mais nous bouscule parfois, parce que nous attendons ce que nous ne possédons pas encore, ce que nous ne voyons pas encore. C'est si bon de penser que nous vivrons de l'autre côté de la foi, l'autre côté de l'espérance. C'est une expression aussi de Thierry Huser. C'est la vue qui fait suite à la foi. Voir Jésus face à face, voir Jésus dans sa beauté, comme nous le chantons, d'être accueilli, de pouvoir lui dire notre reconnaissance, nous qui l'attendions par la foi, parfois en tension, nous qui l'aimions sans l'avoir vu. Maintenant, nous sommes passés de l'autre côté de la foi. En ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu, dit l'apôtre Paul. Et personnellement, je me réjouis en espérance, en pensant que ce moment viendra. Et cela, pour moi, est une aide précieuse dans ma vie. Et puis, la Bible évoque aussi cette vision d'une grande foule rassemblée devant le Seigneur. Et ce sera le temps des retrouvailles, de la communion, le temps des découvertes avec la dimension du grand salut de Dieu. Pensez aussi que cette grande foule n'est pas composée d'anonymes, mais que le Seigneur nous appellera chacun par notre nom. Chacun sera émerveillé de savoir que le Seigneur a veillé sur chacun des siens, qu'il n'a abandonné aucun des siens au séjour des morts. Et avant de conclure, revenons sur la question que nous nous posions tout au début, sur la croyance populaire. Alors, on se retrouvera au ciel ? Est-ce une certitude ? Est-ce automatique ? Qu'en est-il ? Paul l'a cité tout à l'heure également, parole de Paul aux Thessaloniciens 4, 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, la voilà la condition, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Le péché ne nous permet pas de nous tenir en la présence de Dieu. Et le paradis, lieu où nous nous retrouverons, est justement la promesse d'être en sa présence. Et l'apôtre Paul affirme dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, déclare Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, nous pouvons affirmer que seule la foi en son œuvre rédemptrice nous permettra de nous retrouver au paradis. Conclusion. Nous avons considéré l'éternité en relation avec l'espérance chrétienne. Nous avons rappelé les fondements de cette espérance. Nous avons considéré que cette espérance avait un retentissement dans nos vies aujourd'hui. Et nous avons pris conscience des obstacles qui nous empêche d'en vivre pleinement. Enfin, nous nous sommes projetés dans le pays promis. À l'instar de Martin Luther King, peut-être nous avons fait un rêve ce matin. Le but de ce parcours n'était pas de vous faire rêver, enfin pas uniquement, mais de se fortifier jour après jour dans l'attente de ce jour où nous serons de l'autre côté de la foi. Maintenant, comme Jésus sur la montagne de la Transfiguration, il en est redescendu pour marcher vers Jérusalem et accomplir sa mission. Nous avons contemplé un instant ce que sera notre vie de ressuscité avec le Seigneur, mais nous sommes encore là. Et le but de ce regard, oui, c'est d'être fortifié par cette espérance pour vivre mieux, pour louer Dieu et faire sa volonté pour l'avancement de son règne. Nous aussi, accomplissons ce que Dieu met sur notre route. Accomplissons que son nom est béni avec plus de force, de sérénité, pour continuer la route, la course qui nous est proposée. Avertissons celles et ceux que Dieu met sur notre route que la foi en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ est nécessaire pour accéder au paradis et retrouver nos bien-aimés. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Le Seigneur l'a-t-il fait pour vous ce matin ? Que son nom soit béni. Amen.